Dynamique Radio, bonsoir, c'est la libre antenne. J'espère que vous allez bien. On est avec tout le monde. On est avec tout le monde. Stan qui tente un applause. Début de soirée, tranquille. On est avec Père Henri. Bonsoir, Père Henri.
Bonjour.
Ça va?
Ben oui.
Ça va?
Avec joie.
Isa, salut Isa.
Hello.
Ça va Isa?
Ouais, ça va.
Tranquille. J. Warner aux manettes.
Ouais, salut.
Salut J. Warner.
Salut.
Et puis Stan.
Bah oui, ça va.
Ça va, mon Stan?
Bah oui. Et puis il y a notre Frédéric.
Bah oui, merci. Bah
oui,
c'est vrai.
Hein
bah oui, je suis là.
Personne ne te
comme
présente d'habitude.
Soirs,
c'est vrai, c'est vrai.
En moi, direct sur Dynamic Radio.
Il se présente lui-même, en fait.
Fredo Lamèche.
Fredo Lamèche, pour vous servir.
Voilà. Ça, c'est un beau slogan.
Ouais. Pour vous servir. Et en l'occurrence, on a déjà des auditeurs au téléphone, au standard, ça bouge. Et on a aussi un de nos animateurs, chroniqueur d'habitude, qui est avec nous, c'est Tic Potard. Salut Tic Potard.
Salut l'équipe.
Salut.
Comment allez-vous ce soir?
Eh ben écoute, ça va Tig. Et toi?
Ça va, écoute. Bah écoute, voilà, on traîne la France pour chercher chercher des sujets.
Bah ouais, puis je crois que t'as un super sujet ce soir, hein. Tu vas nous présenter dans quelques instants.
Je vais poser des questions sur un sujet que tout le monde va se poser bientôt. Qu'est-ce qu'on va bien manger d'ici quelques années?
Des patates sautées et du poulet.
Ce qu'on nous fait faire sur notre planète, hein. On abîme notre planète. Et donc j'ai contacté, j'ai réussi à contacter une personne qui s'occupe de notre belle terre, qui est Conrad Schrader.
Salut à tout le monde.
Bonjour Conrad.
Pour la petite info, Conrad est en voiture. Il s'est arrêté spécialement pour participer à ce sujet, hein, Thierry.
Bah oui, ça vaut mieux.
Voilà. Donc pour expliquer un petit peu que fait Conrad. Donc Conrad est agronome à l'IAD, donc il expliquera ce que c'est que l'IAD.
L'IAD, ouais.
Il est spécialiste des sols vivants. Il est cofondateur de Vers de Terre Production et de La Vache Heureuse, donc ces deux chaînes YouTube qui parlent de
Vers de Terre Production,
de la planète, de la terre, voilà. Et il est conseiller auprès des agriculteurs depuis une vingtaine d'années.
Ok, très bien. Ah bah beaucoup de casquettes, toujours dans un domaine particulier, hein, quand même.
Voilà, tout à fait. Donc,
l'écologie.
Plusieurs casquettes dans l'agriculture, éleveur. Je pense qu'il va nous en
dire Conrad,
plus
alors,
d'ici quelques instants, cher Conrad.
Parle-nous de toutes tes casquettes d'agriculteur.
Ce serait long, ça ferait déjà une demi-heure, je pense, rien que les casquettes. Donc, on va dire que je pousse, j'organise, je porte des projets, tout simplement. Et les projets, ils ont tous un point commun, c'est la végétalisation des sols et la mise en biologie des sols, si tu veux. Parce que le sol, c'est l'outil fondamental de la production ou de la productivité durable. Donc voilà, donc on décline le sol pour des maraîchers qui font du maraîchage sur sol vivant. C'est la première porte d'entrée vers un sujet un petit peu différent qu'on appelle l'agro, ou la permaculture, mais globalement toutes ces techniques autour des sols vivants, comme on a fini par les nommer. En fait, ça s'adresse à tout type d'agriculture, que vous soyez vigneron. Donc j'ai un projet en vigne qui s'appelle La Belle Vigne, où je travaille ça avec d'autres collègues. J'ai un projet avec les vaches, parce qu'il s'agit de sauver les éleveurs de la faillite et de tout ce que l'on raconte sur eux dans la société, où on sait qu'aujourd'hui la totalité de ce qui se passe dans les médias, c'est faux. Globalement. Donc, on a décidé de repartir à l'offensive contre les médias mainstream et toutes les conneries qui s'y racontent. Donc voilà, les vaches, en fait, elles aident à sauver la planète et pas à la détruire comme on veut bien nous le faire croire. Donc voilà, donc on travaille ça avec les éleveurs. J'ai travaillé aussi le projet de l'Institut de l'agriculture durable, parce que c'était une façon d'amener l'agroécologie dans le territoire politique. Donc ça a été assez bien réussi, parce qu'aujourd'hui on parle d'agroécologie. Et un des derniers projets là que je mène actuellement, on rentre dans un projet qu'on a appelé la Dream Team. Donc c'est voilà, comme les Américains jouent au basket avec la NBA, ils ont une Dream Team. Et ben les paysans aussi, du coup.
La Dream
Team. Et c'est une Dream Team qui doit travailler sur, on va dire, la haute productivité avec peu ou pas de phyto. Voilà. Donc.
Okay.
Donc, et ça, on peut dire que ce sera réussi aussi. C'est bien engagé globalement. Donc, on est très très optimiste pour 2023. Voilà.
Alors, Conrad, je vais faire un petit tour de table. Là, je vous parle de permaculture. Est-ce que vous connaissiez le concept dans l'équipe?
Dans l'équipe.
Alors, pas dans la Dream Team autour de la table. La Dream Team, ça viendra après.
C'est notre Dream Team. Voilà.
Est-ce que permaculture, G-Warner, ça te parle?
Oui, un peu. Oui, j'en ai entendu parler déjà, oui.
Autour de la table?
Oui, le concept.
Ah ouais, moi je sais qu'autour de la table, il y a des vieux potagers, ça c'est sûr.
Il y a des vieux potagers. On fait un petit potard, s'il te plaît. Henri, par exemple?
Eh bien, on a essayé ça il y a 3 ans. Avec un SDF qui était jardinier,
okay,
et qui a installé dans le jardin, il a creusé, il a mis des branchages, il a mis des feuilles, il a mis à nouveau des branchages, il a mis aussi un petit peu de ce qu'il y avait en compost, etc. Et puis il a constitué comme ça. Et c'est vrai que même 2 mois après, c'était effectivement plein de vers de terre partout.
Voilà. Ouais, bah justement, j'avais un ami, justement, c'est pour ça que j'avais convié donc Conrad ce soir. Parce que la semaine dernière, il m'a parlé de BRF. Alors, il me disait BRF. Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi BRF? Et j'ai posé la question à Conrad, qui m'a dit que c'était une façon de faire, en fin de compte, pour les plantes. Donc, c'est du bois ramial fragmenté. C'est ça, Conrad?
Oui, oui, tout à fait. C'est, je dirais que tout le maraîchage à haute productivité écologique, il a été fait grâce à l'apport de branches broyées, tout simplement. Alors, bois raméal, c'est du vieux français. C'est un mot qui nous vient des Québécois. Les Québécois, ils ont gardé cette vieille langue. Et donc, globalement, ce sont des branches broyées. Et avec les branches broyées, en fait, on peut rendre très, très, très fertile tout les terrains, n'importe lequel, qu'il soit sableux ou argileux, etc. Le bois, c'est l'outil numéro un pour restaurer la fertilité organobiologique des sols, en fait. Voilà. Et nous, quand on est en agriculture conventionnelle, dans les écoles d'agriculture et ailleurs, où on forme les ingénieurs, on leur apprend encore et toujours que le bois, ça sert à rien, que c'est très mauvais pour les sols, et que ça dégraderait les sols, ou ça les rendrait acides, ou ça provoquerait des fins d'azote, etc. Et en fait, tout ce qu'on raconte sur le bois, c'est faux. Et on se rend compte que c'est l'outil majeur de la production agricole, en fait.
Quand je vous dis permaculture, en fait, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des humains, c'est ça, et créer l'abondance et redistribuer le surplus, en gros, hein.
Alors, si je vous donne ma définition, elle sera un petit peu différente. Dans permaculture, vous entendez agriculture permanente, d'accord?
Oui, oui,
ou culture permanente. Donc, en fait, ce sont des systèmes de végétaux qui produisent en très, très grande quantité tout au long de l'année, globalement. Pour les amateurs qui s'intéressent à ça, pour des jardiniers, globalement, parce que c'est là qu'on commence à s'entraîner. Mais l'idéal, c'est qu'on arrive à faire ça dans des parcelles agricoles de grande taille, hein, ce serait vraiment super. Mais au niveau des jardiniers, il y a la Fraternité ouvrière de Mouscron, qui est à la frontière belge avec la France, qui a mis en place cette démarche-là depuis une trentaine d'années. Et il y a des reportages qui ont été faits sur Internet, etc., où on peut un petit peu voir à quoi pourrait ressembler. C'est une forêt vierge jardinée, globalement, où la règle numéro un, c'est on ne touche jamais au sol et on le nourrit en permanence avec des feuilles mortes, des résidus de plantes et du bois, des branches, les lagages. Tout revient au sol là où ça pousse. Et globalement, on a tous les standards, on va dire, de la fertilité organobiologique des sols qui se met en route. Et c'est des sols qui vont s'enrichir à 12, 15, 20% de matière organique. Et plus vous les alimentez en résidus végétaux, on va dire, très ligneux, très carbonés, plus ces sols-là se mettent à produire du végétal. Et donc c'est cette première phase qu'on apprend à maîtriser aux paysans avec notre thématique sol vivant. Et moi, je vais élargir un petit peu. Donc, en fait, on ne fait pas de permaculture avec les agriculteurs parce que c'est trop complexe. Pour faire de la permaculture, on a d'abord parlé de ration des sols. Le sol, il doit manger du carbone et qui est principalement constitué de résidus très riches en lignine. Donc, c'est du bois, de la paille, des feuilles mortes et des racines de plantes qui sont en train de mourir, hein, globalement. Et ouais, plus on va nourrir ces sols, plus ils sont capables finalement de capter l'azote dans l'air, parce que cette litière qui se décompose à la surface du sol, elle capte, elle permet aux champignons et aux bactéries de capter l'azote dans l'air, et ensuite ça rentre dans un grand cycle organobiologique qui vous rend l'azote, et les plantes poussent toutes seules dès lors que vous donnez à manger au sol. Donc ça nous a donné une formule très très simple pour le début de la permaculture, c'est la biologie du sol, et quand le sol mange du carbone, en fait, il produit de l'azote et les plantes poussent toutes seules.
Voilà, c'est ce que tu disais dans tes conférences, on mange du carbone et on chie de l'azote.
Ouais, pour être un petit peu plus trivial, parce que des fois, dois bousculer, comment dire, la compréhension des gens. Hein.
C'est ça, c'est ça. Et toi qui est, pour moi, hein, qui est médecin de notre planète, quel est l'état de notre planète aujourd'hui? Est-ce que tu as visité d'autres pays?
On peut vous dire qu'en dessous d'une ligne Niort-Lyon, tout est en cours de désertification accélérée.
Ah oui, donc ça commence.
Donc vous prenez ce parallèle-là, dans le monde entier, c'est gravissime. Personne ne comprend rien. En fait, nos intellos, nos dirigeants sont d'une ignorance crasse. C'est catastrophique, hein, globalement. C'est dans un état lamentable. Et en fait, on se pose beaucoup de questions sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique.
Est-ce bien ça aussi?
Oui, mais le réchauffement climatique, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui n'est pas liée forcément au gaz à effet de serre. En fait, on se rend compte que le genre humain, il est en train de détruire le monde végétal et de façon accélérée. C'est-à-dire.
Je me doute. Ouais.
Je travaille le sol, je le laisse à nu. Par exemple, là, je suis dans le secteur sud Toulouse, le Lauragais. En 2 ans, on fait 2 cultures, 1 culture par an. La première culture, elle occupe le sol pendant 4-5 mois et la deuxième pendant 6 mois. Donc, ça veut dire que sur 2 ans, j'ai 14 mois de sol nu. Voilà. Okay. Et donc, pendant 14 mois, je n'ai pas de photosynthèse. Donc, pendant 14 mois, le soleil me chauffe le sol à 60 degrés et cette chaleur va rayonner dans l'atmosphère et être piégée par les gaz à effet de serre. Donc, en fait, on chauffe ça comme une cocotte minute et on sait parfaitement que quand on met un végétal sur le sol, il va vous diviser la température par 2, donc le rayonnement est divisé et donc le végétal, il va avoir une stratégie de refroidir et de transpirer, ce qui fait une dépression qui amène la pluie. Et donc, plus personne ne comprend rien, personne ne sait comment fonctionne un végétal. C'est une catastrophe intellectuelle d'une gravité phénoménale. On ne sait pas du tout comment on va alerter nos dirigeants, parce qu'en fait, la totalité de l'urbanisation, de l'infrastructure, des grands travaux et de l'agriculture sont en train de détruire la planète, mais on détruit les plantes et finalement, on réchauffe le climat parce qu'on sait parfaitement que c'est la plante qui climatise la Terre, c'est la plante qui fait le climat. Sans plante, pas de climat.
Conrad,
et c'est aussi simple que ça au final.
Conrad, tu es où là actuellement, toi? Tu nous parles d'où?
Ah ben là, je suis à côté d'Agen en fait.
À côté d'Agen, d'accord, très bien. Okay.
Ah ben, en fait, la jachère ou pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de végétaliser tous les sols toute l'année en permanence. Quand je râle, par exemple, contre des bassines, parce que je vais irriguer du maïs, je me trompe complètement de cible. Mmh. En fait, le maïs, c'est une plante qui pousse l'été et qui fait de l'évaporation d'été et donc qui baisse la température du globe. Le problème, c'est le blé. Quand je récolte de l'orge et du blé le 15 juin, je n'ai plus de plantes avant le 15 ou 20 octobre ou novembre aujourd'hui. Donc en fait, on ne sème plus parce qu'il fait trop sec, mais moins j'ai de végétaux, moins j'ai de pluie, plus il fait sec et moins je sème. Mmh. Et donc finalement, je suis en train d'assécher mon climat parce que je suis un céréalier qui a du blé. Et on sait que le blé, qui est la plante phare du croissant fertile, eh bien, elle a détruit toute cette économie agricole du croissant fertile qui aujourd'hui est dans un désert abominable. Et en fait, le travail du sol, sa mise à nu, disons la réorganisation vers des céréales, fait que il y a de moins en moins de couverture de sol, donc de moins en moins d'évaporation et donc de moins en moins de pluie. Donc ça, c'est gravissime. Donc on le sait grâce à nos vaches. Actuellement, sur toute la France, on peut trouver des zones où il y avait de l'élevage, où maintenant il y a uniquement des céréales et des cultures spécialisées type légumes. Et finalement, quand on zoome ces zones-là en agriculture, disons, de la Révolution verte, avec des zones d'élevage ou de polyculture-élevage où il y a beaucoup plus d'herbes, beaucoup plus de haies, beaucoup plus de plantes, parce que chez les éleveurs, les sols sont couverts toute l'année, quasi, eh bien, on se rend compte qu'on a des différentiels de pluviométrie qui se sont mis en place. Par exemple, en Bretagne, le bassin de Pontivy a perdu durablement 300 mm d'eau parce qu'il n'y a plus d'élevage, on a tout remembré. Ce sont des politiques d'État, faut quand même le savoir. Mm-hmm. Et donc, c'est la PAC qui nous encourage à faire des céréales et c'est la société qui nous critique l'élevage. Donc, du coup, tout le monde va vers le mauvais chemin. Et donc, sur Pontivy, il manque 300 mm de pluie durablement tous les ans depuis quelques années. Et autour, on a gardé de l'élevage parce que les terrains sont un petit peu plus mauvais, entre guillemets. Eh bien, il y a plus d'herbe, les sols sont plus couverts, on a beaucoup moins remembré et la pluviométrie, même en pleine sécheresse et canicule, est restée identique à ce qu'elle était avant. Et donc ça arrive dans le Lauragais, c'est à côté de Toulouse, ça arrive partout et on peut commencer à pointer les erreurs de gestion agricole, de la politique de l'eau, de la politique agricole, de la PAC. Et en fait, on se rend compte que tout est très, très, très mal fait parce qu'il y a une ignorance autour du végétal. Par exemple, personne ne sait que les plantes poussent toutes seules quand le sol est nourri et digère de la paille et du bois. Vous voyez ? Très bien. Donc là, il y a tout le monde, je dirais, moi aujourd'hui, que par exemple, notre unité de recherche, INRA, tous nos instituts sont à la faute professionnelle et c'est gravissime.
Conrad, est-ce qu'on peut te poser une question ?
Oui, toutes les questions, tant que vous m'avez au fil.
Ouais, oui, on en profite.
Ouais, j'ai une petite question sur la Beauce, parce que la Beauce, c'est quand même le grenier à blé de la France. Et de 1973 à 2002, donc sur 30 ans, en fait, le niveau de pluviométrie n'a pas évolué. C'est toujours, d'une année sur l'autre, c'est toujours entre 400 mm et 900 mm. Et ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. Alors que tu dis que s'il y a du blé, ça devrait diminuer.
Oui. Mais en fait, qu'est-ce que font les bosserons ? Faut savoir pourquoi la pluviométrie ne baisse pas. La pluviométrie ne baisse pas tant que ça. Elle est très erratique puisqu'elle passe du simple au double. Et en fait, les bosserons, ils compensent le manque de pluviométrie par de l'irrigation. Ils sont en train de vider les nappes. Et quand ils auront vidé les nappes, de toute façon, il y aura plus d'eau. Donc, aujourd'hui, il y a encore la possibilité de faire de la transpiration des cultures d'été, de l'irrigation, parce qu'il y a du maïs, il y a de la betterave. Donc, allez, ça tient qu'à un cas. Et globalement, jusqu'à présent, la bosse profitait en fait des pluies qui venaient des zones d'élevage qui étaient devant elle. Sauf que maintenant, on est dans la plus grande crise de l'élevage qu'on a jamais connue la France, entre l'agribashing, L214, les véganes qui racontent n'importe quoi, et la politique agricole, on détruit les élevages. Et donc, quand on n'aura plus les élevages en amont pour faire évaporer de l'eau, vous assécherez la bosse. C'est ce qui va se passer.
Je suis d'accord.
De toute façon, on connaît les scénarios catastrophes, il n'y a aucun problème. Ouais, hein, ça, mais ça pourrait aller très très vite. Une deuxième sécheresse en 2023 comme en 2022, eh ben c'est mort. Tu peux même plus irriguer, c'est mort.
Conrad, juste une réflexion encore de Père Henri.
Là, sur l'élevage, je suis vraiment tout à fait en alerte. C'est vrai que ça compte beaucoup l'élevage. En revanche, c'est vrai que sur la Beauce, bon, je connais un petit peu, c'est toutes les perturbations d'ouest qui viennent de l'Atlantique, qui déversent, je dirais, les précipitations en arrivant sur la Terre par un phénomène assez classique de condensation. Et donc c'est pour ça que l'évolution, à mon avis, n'est pas manifeste sur 30 ans. Je pensais que c'était un peu à cause de ça, moi.
Ben en fait, tant que vous aviez les éleveurs de l'Ouest, ça tient, si vous voulez. Mmh. Et pour la première fois, on se rend compte que on commence à faire des trous dans les zones d'élevage, type le bassin de Pontivy, mais on va trouver le bassin de l'Ille-et-Vilaine, qui a le même problème, hein, là au milieu de Rennes et tous ses alentours, on a le même problème, et on commence à avoir le même problème en Vendée, parce qu'en fait, on est passé de l'élevage à de plus en plus de cultures, et en fait, on est en train de précipiter une catastrophe où à un moment donné, il n'y aura plus le relais végétal. Mmh. Et quand ce relais végétal sera rompu, en fait, vous allez manquer d'eau. Seine-Maritime, que je connais un petit peu, on y a travaillé avec pas mal d'agriculteurs, et bien on est au bord de la mer, ça y est, ils ont perdu la pluie.
Conrad, pour conclure ce sujet-là, est-ce que tu peux nous parler rapidement de tes deux chaînes YouTube, s'il te plaît ?
Oh ben, en fait, il y en a qu'une réellement, c'est Vers de Terre Production. Donc
Vers de Terre Production.
Voilà. Donc Vers de Terre Production, c'était une initiative de mon collègue François Mullet, avec qui je travaille le dossier des maraîchers, de la haute productivité grâce à la nutrition des sols avec de la paille. Donc on a fait plusieurs milliers de cas d'AMAP en France, donc c'est une agriculture qui est biologique. Alors moi je dis bio-logique pour que la logique de fonctionnement revienne dans les systèmes agricoles. Et avec François Mullet, en fait, on a décidé de trouver un montage technique pour envoyer du savoir-faire autour de cette biologie des plantes, du sol et du climat, de la lutte biologique intégrée, vers les agriculteurs. Donc en fait, on a mis en route nos formations, on les a filmées, on les a remis en ligne. Donc c'est souvent des formats longs de 3 à 30 heures. Voilà.
D'accord. Okay.
Alors on nous a toujours dit ça marchera jamais, mais en fait curieusement ça marche très très bien. Ouais, et donc les agriculteurs, en fait, on leur a envoyé énormément de témoignages, de reportages, de savoir-faire de leurs collègues pour qu'ils commencent à identifier de nouvelles pratiques, pour qu'ils puissent bouger grâce au savoir-faire paysan.
Donc Conrad, par exemple, là, si on va sur ta chaîne YouTube, on a des astuces comme par exemple comment faire un élevage de vers de terre. Visite d'une ferme à vers de terre, des choses comme ça, quoi.
Ouais, alors peut-être pas aussi ciblé sur le vers de terre, parce qu'en
fait,
le vers de terre, c'était une petite excuse, mais effectivement, il y a énormément de choses pour mettre votre système, alors ça s'adresse aux jardiniers tout autant, en biologie, hein, réellement.
Voilà, pour débuter. Ah,
Je pense qu'on aura aussi, sur une prochaine émission, on aura sûrement François Mullet, qui nous expliquera un petit peu voilà ce qu'il avait mis en place avec toi à ce moment-là.
Très bien, Tic Potard, merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Conrad, pour conclure ?
Ben pour conclure, en fait, depuis qu'on a créé la chaîne Vers de Terre Production, donc c'est en 2014, on sait que les agriculteurs français se sont mis au travail. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils commencent à comprendre l'implication de leur sol nu et travaillé. Donc, ils sont en train de réfléchir à comment les couvrir. Donc, il y a une très grosse réflexion autour de tout ça. Et nous, on sait qu'on doit continuer le travail avec eux afin qu'à un moment donné, le monde décisionnaire puisse finalement analyser, s'emparer du sujet, parce que c'est pas fait aujourd'hui.
Très bien, bah écoutez, merci, hein, merci Tic Potard.
Merci à toi, Conrad, de soigner notre planète, voilà, de nous soigner notre
pays,
la France.
Oui, donc mon travail, en fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de soigneurs de planète.
Ok, bien sûr, oui. De plus en plus de soigneurs pour la suite. Planète. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants avec un autre sujet. Restez avec nous.